Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers fidèles, nous arrivons aujourd'hui à la quatrième et dernière partie du catéchisme du Concile de Trente. Mais avant de l'aborder, jetons un coup d'œil rapide sur ce que nous y avons déjà vu. Rappelons-nous que toute la doctrine du salut peut être ramenée à quatre points. D'abord, Dieu, créateur et gouverneur du monde, rémunérateur des bons et juge sévère des méchants, en qui nous devons croire et lequel nous devons connaître. Tout cela est contenu dans le symbole des apôtres. Deuxième point de la science du salut, ce sont les moyens que Dieu nous donne pour obtenir sa grâce. Nous les trouvons dans les sept sacrements. Troisième point que nous avons fini la semaine dernière, c'était les préceptes divins inscrits dans le décalogue. Enfin, pour que rien ne manque aux chrétiens dans la connaissance de ce qu'il est obligé de savoir, dans la dernière partie du catéchisme, nous allons voir ce qu'il faut demander à Dieu et comment il convient de le demander. Ajoutons que dans ces quatre points, nous y retrouvons les trois vertus théologales. Dans le credo, la foi, dans les dix commandements, la charité, et dans la prière, l'espérance. Après ce rappel, passons à l'explication de la prière, qu'elle est utile et même nécessaire. D'abord, la nécessité de la prière. Le catéchisme dit bien la nécessité, car en effet, nous n'avons pas de liberté de prier ou de ne pas prier. Et pourquoi cela? La raison en est que notre Seigneur lui-même nous a fait à ce sujet un précepte rigoureux. Il faut toujours prier, déclara-t-il. Et il ne s'est pas seulement contenté de nous le demander, mais comme un bon pédagogue, il s'est fait d'abord un modèle vivant. Durant sa vie publique, il s'est donné sans réserve à la foule et à chacun, mais son regard restait fixé sur son Père céleste. Il vivait dans un état de prière continuelle. D'après les saints évangiles, il a prié tantôt seul, par exemple sur la montagne, tantôt en public, par exemple quand il a rendu grâce avant la multiplication des pains. Et son exemple était si frappant, si attirant, qu'un jour ses apôtres lui ont demandé de leur apprendre à prier, comme lui-même. C'est bien le procédé habituel du bon Dieu. Quand il veut donner une chose, d'abord il la fait désirer. Et ensuite, les apôtres n'ont pas gardé jalousement pour eux seuls ce trésor de la prière. Ils l'ont transmis aux premiers chrétiens. Arrêtons-nous juste un instant sur la prière de notre Seigneur, car le seul fait que Dieu Tout-Puissant, pouvait prier, devait nous frapper de stupeur. Eh bien, notre Seigneur priait seulement en tant qu'homme. Comme Dieu, il ne pouvait prier, car la prière suppose au moins deux personnes, dont l'une est inférieure par rapport à l'autre. Elle appartient essentiellement à la créature, car, comme Verbe, Jésus ne pouvait s'humilier devant la majesté de son Père. Il ne pouvait que la glorifier en s'égalant à elle. Mon Père et moi, nous sommes un, a-t-il dit à ses disciples. Mais en tant qu'homme, il dira, le Père est plus grand que moi. Nous voyons donc notre Seigneur prier. Mais il ne l'a fait pas par nécessité, puisqu'il avait deux volontés, une volonté divine et l'autre humaine. Sa volonté divine pouvait toujours exaucer sa volonté humaine. La nécessité est donc de notre côté. Le Sauveur nous apprend à prendre conscience de notre condition de créature, de notre impuissance. Et tout cela est bien contraire à l'esprit du monde, l'esprit dont nous tous sommes imprégnés, comme une éponge. On ne veut surtout pas demander, et donc s'humilier. On préfère revendiquer ses droits. Cela peut marcher avec la société basée sur la fausse liberté, mais avec Dieu, cela ne fonctionne pas. En effet, Dieu ne doit rien à personne. Et si nous voulons recevoir de lui ce dont nous avons besoin, il nous faut le solliciter de lui par la prière. Et toute notre nature devait crier à Dieu au secours, indigent qu'elle est, surtout pour tous ceux qui concernent notre âme, mais aussi quant à notre corps. Insistons encore une fois, sans la prière, il est des choses que nous n'aurions jamais. Si la prière est nécessaire, elle est aussi bien utile. Comme un verger qui abonde en de différents arbres, la prière nous offre de multiples fruits. Le premier, c'est qu'elle honore Dieu. C'est lui qui en est le premier bénéficiaire. Par elle, nous reconnaissons que nous dépendons entièrement de Dieu, que nous n'espérons qu'en lui seul, comme un petit enfant qui attend avec confiance de son Père tout ce que lui est nécessaire pour la vie présente et future. Que dirions-nous d'un enfant qui ne parle pas à son père et ne le salue presque jamais? Dieu n'est-il pas le meilleur des pères, veillant sans cesse sur nous et toujours prêt à nous combler de ses grâces? Le deuxième fruit, c'est que la prière ressemble à un clé qui seul peut ouvrir la porte du ciel. Selon saint Augustin, la prière monte et la miséricorde descend. Et nous pouvons être sûrs que Dieu répondra à notre appel, tôt ou tard, de façon ou d'autre. C'est tout différent entre les hommes. On peut rencontrer des personnes qui seront touchées de notre souci. Par exemple, une grosse dette à payer. Elles voudront nous aider, mais cela s'arrêtera là, car elles n'auront pas une telle somme. D'autres, beaucoup plus aisés, seraient en soi capables de nous secourir, mais leur avarice le leur empêchera. Elles pourront, mais elles ne voudront pas. En Dieu, ces deux qualités, pouvoir et vouloir, s'unissent bien souvent. Il peut, puisqu'il est tout-puissant, et il veut, puisqu'il est miséricordieux. Écoutons ses propres paroles qui devraient augmenter notre confiance. Vous invoquerez, et le Seigneur vous exaucera. Vous crierez, et le Seigneur dira, « Me voici ». Avant qu'ils ne crient, je les entendrai. Ils parleront encore que déjà je les aurai exaucés. Mais parfois, notre expérience peut être tentée de le contredire, car il arrive que nous n'obtenons pas de Dieu ce que nous lui demandons. Mais n'oublions pas que Dieu ne veut que notre bien. Il reste toujours notre Père, et quel Père donnerait des ciseaux à son tout petit enfant pour jouer? Loin de lui aussi l'avarice. Il est le bien qui veut se répandre. Bonum est diffusivum sui. Il refuse de nous donner certaines grâces pour nous accorder de beaucoup plus grandes et précieuses. Parfois aussi, le bien que nous demandons ne nous est pas nécessaire ni utile, et peut-être même nuisible. Prenons un exemple. Quelqu'un demanderait d'avoir une position sociale aisée. Ce qu'on soit n'est pas un péché. Mais le bon Dieu aurait sur lui d'autres projets. Au lieu de la richesse qui lui tournerait la tête et peut-être empêcherait son entrée au ciel, Dieu lui réserve de lui servir, par exemple, dans l'état religieux, où il pourra sauver son âme et beaucoup d'autres. Souvent aussi, nous prions si mal que notre esprit s'égare sur toutes sortes d'objets, aussi bien réels, par exemple, pour entendre en même temps les dernières nouvelles à la radio, que ceux imaginaires, quand nous sommes préoccupés de faire des projets pour l'avenir. On y récite les formules sans piété ni attention, et au lieu de le faire le matin, juste après le réveil, à genoux, en y consacrant un temps convenable, on l'expédie à la hâte, entre deux claquements de porte, celle de la maison et de la voiture. Une telle prière porte encore le nom de prière, mais de fait, elle ne l'est plus. Elle n'est plus l'élévation de l'âme vers Dieu, ni un entretien de l'enfant de Dieu avec son Père céleste. Celui-ci peut se demander à juste titre si nous tenons à ce que nous demandons. Le troisième fruit, c'est l'exercice et l'accroissement de toutes les vertus, en particulier de la foi. Pour bien prier, il faut avoir la foi en Dieu. Car comment s'adresser à quelqu'un si l'on ignore son existence? C'est donc la foi, et non pas, comme voudraient les modernistes, l'expérience ou la sensibilité du cœur, qui permet de trouver Dieu véritablement. Nous pouvons donc, dès ici-bas, nous adresser directement à lui, bien que ce soit dans l'obscurité de la foi. Lorsque l'âme prie, elle dépasse le monde des choses matérielles, des choses qui passent. Elle pénètre dans une région plus haute que les sens n'atteignent pas, celle où Dieu habite. Il y a aussi une autre utilité, et bien que nous ne l'apprécions pas assez, il y a quelqu'un qui en redoute comme de l'eau bénite. C'est que la prière est à la fois une arme puissante contre le démon, un bouclier qui nous rend invulnérables à ses traits. C'est de la prière que tout dépend. Celui qui prie se sauve, celui qui ne prie pas se damne. A dit saint Alphonse. Satan le sait très bien, disait le père Maximilien Marie Kolb dans une de ses conférences. Le diable sait qu'il est toujours vainqueur si l'on reste dans le domaine des moyens purement naturels. Mais quand on recourt aux moyens surnaturels par la prière, il tremble, car alors ce n'est pas contre les hommes, mais contre Dieu qu'il lutte. Et il sait que dans ce combat, il sera vaincu. C'est pourquoi il essaie par tous les moyens de détourner l'âme de la prière, par des distractions, la fatigue, le découragement, etc. Enfin, le cinquième fruit que le catéchisme mentionne, c'est que la prière apaise la colère de Dieu, désarme sa justice et obtient la miséricorde et le pardon des péchés. Dès que Dieu voit le pécheur humilié et repentant à ses pieds, son cœur est aussitôt touché de compassion. Rappelons-nous seulement d'innombrables prévarications d'Israël dans le désert. C'est justement le sujet de l'offertoire de la messe d'aujourd'hui que nous allons entendre tout à l'heure. Pendant que Moïse était sur le mont Sinaï, le peuple se prosterna devant le veau d'or. Dieu dit à Moïse : Le peuple a la tête dure, laisse-moi que ma colère s'échauffe et que je le détruise. Dieu dit bien : Laisse-moi, comme pour indiquer que Moïse exerce sur Dieu une puissance mystérieuse. Et justement, Moïse sait bien que les Juifs ont bien mérité le châtiment, mais aussi qu'en cette circonstance, le salut de son peuple était en jeu. Il perd sa timidité et s'enhardit plus qu'à aucune autre heure de sa vie. Il se mit alors à prier. « Pourquoi, Seigneur, êtes-vous irrité contre votre peuple ? Calmez-vous, apaisez la colère de votre âme. Souvenez-vous de vos promesses à nos pères. » Dieu alors s'apaisa et revint sur son projet de châtiment. Nous avons vu la nécessité et l'utilité de la prière. Il nous restera à traiter dimanche prochain de l'aspect plus pratique, à savoir comment bien prier, que faire pour que notre prière porte des fruits. En attendant, demandons notre Seigneur de nous apprendre à prier, Domine docem orare, qu'il soit notre maître de la prière, par son exemple, ses paroles, et par l'Esprit Saint qu'il envoie dans nos cœurs. Et pour que vraiment rien ne nous manque, renforçons notre union à notre bonne Mère du Ciel. C'était elle qui apprenait à petit Jésus ses premières prières. Ce sera elle aussi qui nous fera bien prier. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.